Entre nous, l'histoire du Très Carré, un balado présenté par le Moulin des Jésuites. Nous avons toutes et tous une idée c'est quoi l'histoire, le patrimoine. On pense souvent aux grands événements, aux batailles majeures, aux individus morts il y a des centaines d'années. Mais l'histoire, c'est plus que ça. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller me promener dans un quartier unique, bien vivant et débordant d'histoire. Je suis allée à la rencontre de gens du Très Carré qui, peut-être sans le savoir, transmettent leur histoire par leurs gestes. Ces gens sont, grâce à leur métier, des porteurs de patrimoine. Je m'appelle Mélise et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2. Pour ce premier épisode, je vous invite à vous mettre dans les souliers de Monsieur Pajot. Mais avant toute chose, j'ai un arrêt à faire dans la classe de Madame Valérie.
Merci beaucoup, puis peut-être vous demander de vous présenter juste votre nom. Est-ce qu'on peut commencer par ici?
Oui. Léa. Oui.
Sophia.
Léane.
Alice.
Paul.
Amy.
Valérie.
Noémie.
Juliette.
Anaïs.
Olivier.
Arnaud.
Hubert.
Théo.
Pierzo.
Viviane.
Héloïse.
Johanna.
Flavio.
Chloé.
Émile.
Julia.
Luc.
Aurélia.
Sarah.
Bienvenue dans notre classe.
Ouais, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais avoir quand même besoin de votre aide pour qu'on puisse parler ensemble et discuter des sujets comme l'histoire. Donc on va parler de vieux métiers aujourd'hui, on va parler des métiers du Très Carré en particulier. Et le métier de vos parents, j'aimerais qu'on puisse parler un peu, c'est quoi le métier de vos parents?
Mes parents sont scientifiques.
Caméraman à Radio-Canada pour mon père.
Moi, mon père, il travaille pour toute la ville de Québec. Puis ma mère, elle travaille chez Béton Provincial, genre les camions qui mettent le béton, là, tu sais, quand ils font des travaux.
Mon père est livreur, et ma mère est infirmière.
Mon père, il est constructeur. Puis ma mère, elle, je sais pas, mais elle travaille chez Hydro-Québec.
Ma mère est professeure et mon père est avocat.
Mon père, il est professeur d'anglais, puis ma mère est travailleuse sociale.
Mon père est charpentier, puis ma mère a travaillé pour Sandalwood, elle organise des événements dans les centres d'achat.
Est-ce qu'il y a parmi vos parents, il y en a qui travaillent dans le Très Carré?
C'est proche d'ici.
Mon père travaille un peu partout aussi.
Moi aussi, mon père travaille.
Ouais, un peu partout. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait définir c'est quoi l'histoire? Puis pourquoi c'est important de parler d'histoire? C'est quand même une grosse question, oui?
Ben, pour savoir comment notre culture est, puis comment ça s'est produit, notre langue, nos lois, puis ces affaires comme ça.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'est développé en année.
Comprendre le passé pour comprendre le présent, en fin de compte.
Et pour comparer le temps passé puis le présent.
Oui, exactement. C'est toutes des bonnes réponses. Donc, en histoire, on étudie justement le passé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important pour comprendre qui on est. Et si je vous dis patrimoine,
j'ai déjà entendu ça à quelque part, mais...
j'ai déjà entendu patrimoine mondial.
Oui, parfait. Juste à côté.
Je vais essayer quelque chose, je sais pas vraiment, mais genre un peu, je sais pas, reconnu, genre...
Quelque chose qui est reconnu, qu'on a dit oui, ça c'est important.
Ouais.
Ouais. Patrimoine mondial, on peut dire que le monde entier dit oui, ça c'est important. Est-ce que c'est relié à l'histoire, vous pensez?
Oui.
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 Un truc ancien et important.
Un truc ancien important, oui, ça pourrait résumer. Le patrimoine, c'est aussi quelque chose que, c'est par rapport à l'histoire, oui, c'est très important, ça fait partie de la culture, mais c'est aussi quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Donc ça, c'est une partie qui est très importante du mot patrimoine, qui est différente de l'histoire. Donc quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Donc on va pouvoir transmettre au fil du temps. Une vieille carte.
Non,
ceux qui disent oui, levez la main. Ceux qui disent non, c'est oui. Donc, je vais vous expliquer un peu pour comprendre. Donc, le patrimoine peut être des maisons, des bâtiments, mais aussi des objets. Donc, un objet ancien qu'on a retrouvé, par exemple, en faisant des fouilles archéologiques donc dans le sol, ou une vieille carte qui date de 1709, par exemple. Donc, ça peut faire partie justement du patrimoine parce que on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Un personnage, lui, c'est Jean Cartier.
Oui. Oui.
Est-ce qu'il fait partie du patrimoine?
Oui.
Effectivement, même un personnage pourrait faire partie du patrimoine parce que il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, mais il a légué des choses jusqu'à aujourd'hui. Oui, tu avais une intervention.
Que mon père, il m'a dit que les rues, des fois, c'est des noms de personnes importantes qui existaient avant.
C'est très, très vrai. Exactement. Donc, il y a des personnages, justement, qu'on décide, ah oui, eux sont importants pour l'histoire, sont compartis du patrimoine. On va nommer une rue en l'honneur de ces personnes-là, justement, pour s'en rappeler. De la danse et de la musique.
Oui.
On pense oui.
La danse, ça peut être surtout une danse rituelle qui peut être spéciale pour une culture ou qu'une chanson peut être écrite pour, admettons, pour encourager des soldats pendant la guerre ou elle peut représenter quelque chose qui s'est passé qui est important.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais ça pourrait être. Mais... juste pour exemple danser, pour exemple, il y a une fête, on peut danser pour symboliser ou chanter une chanson.
Ben, ça peut être des danses très vieilles qui ont fait exemple au cours des fêtes, genre Noël, il y a exemple, il y a une danse en rituel là-dessus, ça serait ça.
Oui, tout à fait. Donc, on voit que c'est associé peut-être à un symbole, donc un moment important. Une danse en particulier, justement, quand on célèbre un rite comme à Noël ou de la danse traditionnelle ou de la musique, certaines pièces, justement, qui peuvent faire partie du patrimoine. Oui.
L'hymne national, ça fait du parti.
Elles sont un peu comme Théo, mais est-ce que toutes les hymnes nationales de tous les pays au monde, c'est comme...
Oui, ça fait partie du patrimoine de chacun des pays. Tout à fait. Sirop d'érable.
Ben oui.
Oui. Là, j'ai mis le sirop d'érable pour parler de tradition. Donc, une tradition d'aller
à la cabane à sucre.
La cabane à sucre, par exemple. Parce que ça aussi, ça peut faire partie du patrimoine.
Oui.
Québec ou le Canada, c'est un peu genre l'aliment qui est un peu dans notre pays.
C'est identitaire, donc c'est caractéristique de ce pays-là. Oui.
Parce que ben, j'ai deux trucs à propos du sirop d'érable. Parce que c'est un des. Ben, parce que c'est. Parce qu'il y a 72% du sirop d'érable qui a été fait dans tout le monde au Canada, puis 92% au Québec. Puis aussi, j'ai regardé aussi, là. Dans mon cahier escale vite fait, mais c'est marqué que dans les années du Haut-Canada puis du Bas-Canada, ben la cabane à sucre, ça existait déjà.
Mm-hmm, tout à fait, oui.
Je sais pas, je dis ça de même, mais il y a aussi une feuille d'érable sur le drapeau du Canada.
Aussi, donc, on parle que c'est représentatif du Canada, que c'est identitaire, donc, effectivement. Est-ce qu'un métier peut faire partie du patrimoine?
Oui.
Quelques idées, pourquoi?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu, puis peut-être que dans l'ancien temps, ben ça voulait dire beaucoup de choses.
Parce que ça se transmet de génération en génération.
Exactement. Donc, on parlait de danse, de musique, de tradition, de métier. Tout ça fait partie du patrimoine immatériel. Donc, c'est différents types de patrimoine que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nommer quelques vieux métiers, mais qui restent là aujourd'hui?
Cordonnier.
Militaire.
Fermier.
Boucher. Les laitiers.
Couturier.
Maçon.
Forgeron.
Boulanger.
Boucheron.
Charpentier.
Marchand.
C'est effectivement dans une génération en génération. On a le cordonnier, donc j'ai entendu qu'on l'avait, effectivement, on en avait parlé. Donc, Monsieur Pajot qui est là, donc je vais partir ma vidéo. Je vous demanderai de porter attention à ce qu'il dit, à ce que vous voyez aussi, à qu'est-ce que ça vous fait réfléchir.
Moi, c'est Jean Pajot. Je suis cordonnier. Moi, j'ai toujours resté dans le Tricarré. On est toujours demeuré dans le Tricarré. Quand on était plus jeune, on restait dans une maison un petit peu plus loin. Et quand mon grand-père est décédé, ben là, on a déménagé ici dans la demeure. J'ai appris avec mon père qui m'a montré les rudiments du travail. Je le regardais aller, fait que on apprend à juste savoir que la personne travaillait, on apprend. Fait que mon père, il s'appelle Louis-Georges. Il était cordonnier. Il a commencé à l'âge de 15 ans. Il aidait mon grand-père. Il en a fait toute sa vie jusqu'à sa mort. Il a travaillé cordonnier pendant 70 ans. Il n'a jamais arrêté. Il voulait pas arrêter. Il disait, je vais faire quoi si j'arrête? Il aimait ça. Il rencontrait le monde, puis il parlait avec le monde aussi. Il adorait ça. L'amour du travail, de voir les gens, puis de pouvoir leur parler. Puis, on fait du social en même temps. Puis c'est lui qui m'a appris aussi, parce que j'en fais depuis l'âge de 15 ans que j'en fais aussi, comme mon père a débuté à peu près à 15 ans, puis il en faisait, puis je l'aidais pour les petites choses au début, j'ai appris avec lui, en travaillant avec lui régulièrement. Une fois que je fais de quoi d'une manière, il me dit non, pas comme ça, quand on voit comme ça, ça va aller mieux, puis c'est là qu'on apprend, puis on développe des meilleures techniques pour, parce que des fois, tu t'y prends mal, oui. Fait qu'en me disant comment faire, là, c'est vrai que ça va mieux après. Il me guidait. Fait que, mais ça, il me le montrait. Quand il me voyait, il me regardait, non, pas comme ça, comme ça. Puis, des fois, il me laissait aller, mais là, il me disait, tu serais mieux de faire ça comme ça. Puis, des fois, quand, pour sabler, au début, ah, c'est comme ça, ah, ok, ça va bien. Puis, on va le savoir pour la prochaine fois. Mon grand-père a commencé en 1939. Je ne l'ai pas connu beaucoup, mais il s'appelait Léopold Pageot. Il a commencé dans la cour arrière, ici, dans le Trécarré. Pas dans la maison ici, un petit peu plus loin. Puis, dans l'hangar en arrière, et au deuxième étage, il faisait les réparations de chaussures. Puis, il a commencé en travaillant pour la compagnie Yale, une usine à chaussures. Il était d'ailleurs. Ça, c'est couper le cuir pour les chaussures. Il a commencé ça, là-bas, puis après ça, il s'est emmené ici, puis c'est là qu'il a commencé à débuter le métier de cordonnier. C'est le cordonnier du village, puis il vendait de la chaussure. C'est, ici, dans le coin, il n'y avait pas d'autre qui vendait de la chaussure. Au départ, dans le Trécarré, il n'y avait pas d'autre. Il était tout seul. Il a acheté la maison en 1943, parce que ici, c'était la coop de Charlebourg qui était ici à l'époque. Puis en 1966, il y a eu des modifications. Ça, je n'ai pas connu ça. Il a acheté qu'il y avait des modifications, parce que la porte d'entrée était ici. Où est-ce que le BIM là, c'est la porte extérieure. Il y avait une galerie à l'extérieur. Ça a été modifié à l'époque. Pourquoi il a décidé de commencer, ça je peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est des détails qui me manquent. Là. Je pense qu'il y avait une trentaine d'années quand il a commencé, parce qu'il travaillait avant là-bas. Il s'y est arrêté une trentaine. Il est décédé, il avait 82 ans, fait que... Il a dû en faire une quarantaine, 40-50 ans certains. Il a fait ça toute sa vie. Il a arrêté, il est décédé en 1980. Pour ça, moi j'étais jeune encore, que je peux pas. Je l'ai pas vraiment vu travailler faire de la cordonnerie. J'ai plus vu mon père qui travaillait avec, il l'aidait, fait qu'il apprenait comme mon père m'a appris à moi, en faisant les choses. Puis ma grand-mère venait, puis ma mère venait répondre aux clients pour la vente de chaussures, mais bon, il faisait pas de réparation. Ou il aidait des fois quand il faut tenir une pièce qui est assez grosse, il aidait à la tenir, là, mais pas, il faisait pas de réparation. Ma mère aidait mon père pour la comptabilité, là, faire les chèques, puis, tout ça l'aidait. Le cordonnier, ça répare des chaussures en général, mais le métier a fait qu'on répare un peu de tout. On fait pas juste la réparation de chaussures. Je fais des coutures sur des toiles, mais autre chose. Là, en général, il y a plein de choses qu'on peut faire là, dans la mesure du possible. C'est un bon métier pour ceux qui veulent aider puis à réparer des choses, mais il y a moins d'ouvrages qu'avant dans le domaine, c'est sûr. Mais il y en a encore, mais il y a moins de choses qui se réparent. Puis le monde est rendu dans la consommation, qui vont acheter des souliers pas chers, puis ils veulent pas mettre un 15-20$ parce qu'ils vont dire je les ai payés 20$, puis ils veulent pas mettre un 20$ de réparation, il est mieux changer pour une nouvelle paire. C'est la réalité d'aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut plus réparer, parce que les souliers sont... Avant, on avait une base solide, maintenant, des fois, c'est du plastique. Quand le plastique est cassé, malheureusement, on peut rien faire. C'est fendu, c'est cassé, on peut pas rien faire avec. Puis même, des fois, les nouveaux matériaux, après un certain temps, ils viennent, ils s'égrènent, ils se désagrègent, fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. C'est les matériaux d'aujourd'hui qui sont moins durables. Avant, le cuir, ça pouvait se garder des années. On achetait des souliers, puis ils gardaient 10, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Puis on changeait le talon pour la semelle, puis on pouvait passer 10 paires de semelles sur une paire de souliers, puis ils avaient pour une vingtaine d'années. Mais maintenant, c'est plus aussi solide. Il se fait encore des bonnes chaussures en cuir. Il y en a encore qui semelles de cuir, mais il y en a beaucoup moins, par contre. Surtout, c'est toutes des semelles de caoutchouc maintenant. Il n'y a pas un soulier qui a la même forme, la même largeur, la même longueur. Ça, c'est la sableuse qui tourne à 1500 tours minute. Ça, c'est pour faire le devant des talons. Un jeu de devant des talons. Donc, ça, c'est pour sabler le côté. Celle-là, elle ne fonctionne plus. C'est une machine pour coudre des semelles. Les semelles cousues de cuir. Elle est encore fonctionnelle, mais c'est parce que ça prendrait un ajustement de la gannelle. Il n'y a plus vraiment de monde qui la répare. Pour les semelles cousues qu'on fait maintenant, ça ne vaut plus la peine d'investir dessus. Parce qu'il n'y a pratiquement plus de semelles cousues. Le moulin normal. Pour ça, ça va dans toutes les directions. C'est que si on a de quoi faire, qu'on veut retourner, il n'y a pas de problème, ça tourne. Puis l'autre, ben, c'est pour arracher des talons aiguilles qu'on en pose beaucoup moins. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en a moins qu'avant. Couper le cuir, le tour des semelles de cuir. La partie ici, c'est pour amincir le bout de la semelle qui va là, près du talon, pour pas qu'il reste épais, mais on l'amincit. C'est pas mal tout ça. C'est pas genre court. Les coutures à faire, les zippers, là. Plus l'hiver que l'été. Mais on a les zippers de sac, mais l'hiver, c'est les zippers de boîte qu'on a un petit peu plus. Mon père avait posé un œillet sur une tortue, une carapace de tortue. Ça, c'est. Parce qu'il y en a un qui avait une tortue, puis elle s'en allait tout le temps, puis pour la garder attachée, il avait fait poser un œillet dans sa carabasse. Sa tortue, il l'a pas perdu. J'aime un peu de tout, c'est parce qu'on voit de tout, puis chaque réparation est un défi, parce que c'est jamais brisé de la même manière. Fait qu'il y a toujours un petit quelque chose qui est différent. Fait qu'il faut apprendre à regarder comment on pourrait réparer, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre comme à neuf. Faut aimer aider, parce qu'on aide les gens qui veulent conserver leurs chaussures ou leurs biens à les réparer. Des fois, on se dit, je serais pas capable de faire ça. Des fois, on essaie. Des fois, quand c'est vraiment impossible, on peut pas. Malheureusement, c'est impossible. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de le faire quand c'est possible.
J'ai une main levée ici. Tu voulais intervenir?
Ouais, c'est juste que tantôt, je voulais m'informer sur des trucs et j'ai tapé coordonnées sur Google, il y avait une photo de ce gars-là.
Oui, hein?
C'était vraiment le même gars. Je viens de réaliser, c'est le même bureau. Un autre truc, c'est pas. J'ai remarqué que les chaussures, c'est vraiment des chaussures anciennes. C'est pas des chaussures genre. Comme ça ou comme Ibel. Tu sais, c'est vraiment des chaussures actuelles.
Oui, ça c'est très important. Donc, on peut peut-être définir qu'est-ce que fait le cordonnier, donc. Qu'est-ce que le cordonnier fait?
Ben, peut-être que si les scellés sont brisés, il peut les réparer. Il peut réparer toutes sortes d'affaires. Puis il peut ça, puis après leur donner, puis il va être content. Pis.
Qu'est-ce qu'il réparait?
Un peu de tout.
Ben, il a dit qu'il aimait aider les autres pour réparer ses choses, puis il fait bien parce qu'il veut que les autres soient contents.
On a vu qu'il y avait plein de matériel, plein de machines pour réparer.
C'est surtout des affaires en cuir, en tissu qui réparent.
Moi, c'est plus une observation, mais. Ça, là, c'est genre des semelles, des trucs jaunes, là.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est des semelles.
Ok, est-ce que, je sais pas s'ils fabriquent ou ils les donnent ou ils les réparent.
Oui.
Je sais pas si.
Ça fait partie du soulier, donc, ils les réparent, ils peuvent les fabriquer. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez que c'est. Pourquoi que les semelles, là, sont là?
Ils les donnent.
Pensez-vous
les
vraiment
qu'ils les donnent? Ils les vendent.
Ils les vendent, effectivement. Donc, c'est un commerce, donc c'est une boutique. Donc, il veut vivre aussi de son métier, donc il va pouvoir vendre des choses.
Est-ce qu'il pourrait vendre des crampons pour les souliers?
Des lacets?
C'est possible. Tout qu'est-ce par rapport aux souliers?
Ben, je sais pas, mais il peut peut-être les faire, les souliers.
Il peut fabriquer aussi, donc pas juste réparer, mais fabriquer. Pourquoi vous pensez qu'il y a moins de travail qu'avant?
Parce qu'avant, c'était son grand-père, je pense, qui était le seul cordonnier. Fait que là, ben, il y avait beaucoup de travail.
Parce que là, c'est moins populaire, fait qu'il y a moins de gens qui viennent puis ils demandent moins d'affaires.
Pourquoi ça serait moins populaire?
Ben, parce que, quand les souliers sont brisés, la plupart du temps, ils vont en racheter d'autres au lieu d'aller les faire réparer.
Ben, aussi à cause des machineries, maintenant, ils peuvent beaucoup repasser les mains.
Ben, moi, cet été, je suis allée réparer mon manteau.
Oui.
De pluie, puis c'est lui, je suis allée.
Ah oui, t'as été le voir directement. Comment il a appris son métier?
Il l'a transmis de génération en génération avec son père, puis lui.
Exactement, donc c'est son père qui lui a enseigné. À quel âge il a commencé?
15 ans,
exactement. Donc son père l'a appris de son grand-père, et lui, il l'a appris de son père.
Puis sa grand-mère et sa mère, elle s'occupait de vendre les chaussures.
La comptabilité des chaussures.
Exactement, elle s'occupait de la comptabilité, elle s'occupait de la vente. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise familiale?
Oui, oui. Il aimait bien son travail.
Je pense que oui. Est-ce que vous avez aimé ça aujourd'hui?
Oui.
Oui, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez le plus aimé?
Moi, j'ai aimé les vidéos pour savoir c'était quoi un petit peu leur travail et qui nous explique tout... leur travail.
C'est pas nécessairement des métiers qu'on connaît, hein?
Ouais.
Qu'on voit vraiment comment ils travaillent.
Oui, ici.
Ben, moi aussi, c'est un peu dans le mini de Ellie. Mais c'est aussi fun de voir c'est quoi, genre, les passions pour les choses.
Moi, j'ai bien aimé apprendre sur cordonnier parce que c'est quand même un métier qu'on parle pas souvent de ce qu'on
a. Merci.
Merci. Merci. Merci.
C'était très intéressant.
Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 2 du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du trait carré. Pour le prochain épisode, je vous invite avec moi. On va aller rendre visite à la famille Filion dans le trait carré pour parler d'apiculture et de patrimoine vivant. Restez à l'écoute!